normal, pas normal. Et si on en parlait ?
Et si on en parlait, en tout cas exceptionnel ce matin, puisque nous nous intéressons à la cause des enfants de façon particulière, voilà. Vous savez que le dimanche 20 est célébré, comme chaque année, la journée mondiale de l'enfant. Et ce matin, nous allons échanger avec Madame Lydia Quadio, qui est à la communication digitale. Hein, et avec elle aussi, on va s'intéresser à la thème de la Journée mondiale de l'enfance 2022, l'inclusion pour chaque enfant. Bonjour Madame, bienvenue.
Bonjour.
Comment allez-vous ce matin?
Je vais très bien.
Ok. Avoir tous ces enfants-là, aujourd'hui ici déjà dans le studio, vous-même vous êtes levé certainement tôt, ce qui n'est peut-être pas une habitude. Quelle impression vous avez particulièrement, vous, ce matin?
Je trouve que déjà l'ambiance est très bonne ici sur ce plateau.
Ok.
Et je félicite vraiment le travail que vous faites parce que se lever tôt et parler aux gens à la radio, c'est vraiment pas facile. Mm-hmm. Ça doit pas être facile, mais je trouve que c'est intéressant et tout. Donc merci.
Ben voilà. Faut bien que nous puissions évidemment tenir notre rang. Communication digitale, qu'est-ce qui a fait particulièrement vous? C'est vrai que bon, on imagine bien évidemment que le ton est donné par l'UNICEF elle-même. Il consiste en quoi, vous, en termes de relais au niveau de la communication digitale?
Mon travail consiste à vraiment parler de ce que l'UNICEF fait sur le terrain, sur les réseaux sociaux, sur le site internet, et de vraiment donner de la visibilité à toutes les actions qui sont menées. Voilà.
Ok. Et quel est le ressenti, en tout cas, qu'ont toutes les personnes qui, par exemple, lisent les publications, tout ce qui est fait. Qu'est-ce que vous sentez, vous, comme ressenti de la part de ces personnes-là?
Il y a une très bonne interaction avec les personnes qui nous suivent.
Okay.
On essaie d'être au mieux proche d'eux et de parler leur langage et tout. Donc, on se comprend. Voilà, c'est ce que je peux dire, on se comprend.
D'accord. Faut qu'on échange aussi un tout petit peu avec les enfants eux-mêmes, puisqu'ils sont concernés. On va discuter avec qui ce matin? Bon, c'est vrai que notre ami Aurélia, voilà. Aurélia, viens Aurélia. Voilà, on a Aurélia, on a qui encore? On a notre journaliste maison,
oui.
Attends, quand même.
Colo.
L'ami Colo Magloire.
Colo Magloire.
Ah oui, Colo Magloire va venir aussi. Il va juste s'installer là, à la place de Armel Mendy. Voilà, Armel Mendy n'est pas qu'un simple journaliste, c'est quelqu'un qui
est moniteur d'enfants.
Il aime beaucoup les enfants.
Oh.
Voilà. Et
dites-le. Il n'a même pas laissé déjeuner à la maison.
Lui-même étant père d'enfants. Une quinzaine d'enfants.
Bon, Magloire, mais il ne sait pas pourquoi il s'assoit, parce qu'il est déjà en bas.
Ah.
Et puis c'est un grand fourreur. Il est fourré.
Ah, il est comment?
Il est fourré.
Comme un bon
sémaphore. Oui, fourré comme tout paille.
Colo Magloire. Magloire, ça va ce matin?
Ça va.
Tu vas bien?
Je vais bien.
Ah, génial. La journée mondiale de l'enfance, qu'est-ce que tu en penses, toi?
Je pense que la journée mondiale de l'enfance est une bonne initiative.
D'accord, rapprochez le micro, s'il vous plaît.
Aidez-le,
voilà, le micro de Magloire, voilà.
Donc, je disais, la journée mondiale de l'enfance est une bonne initiative.
Ok.
Alors, les enfants doivent être célébrés, doivent se sentir heureux. Donc, l'UNICEF a trouvé une date pour célébrer les enfants.
Ouais.
Cette date, chaque enfant doit s'épanouir. Chaque enfant doit se sentir heureux.
C'est ça. Oh, mais c'est magnifique.
Ouais.
Alors, franchement, Magloire, les amis, Magloire.
Non, Magloire.
Le PDCI, ne cherche pas de
le futur. Si on cherche le futur sur la liste électorale. Magloire.
Ça, c'est pour vous.
Là, à cette allure-là, est-ce que tu envisages un jour de devenir grand et laisser l'enfant. Comment on appelle ça? L'enfantisme.
C'est pas une question de poser ton.
Je compte devenir grand.
Et quand tu vas pas regretter d'être grand et puis ne pas être toujours un enfant pour bénéficier de cette journée?
Je ne vais pas regretter parce que je vais aider les enfants à bénéficier de cette journée.
Toi-même là-haut.
On va causer avec l'ami Aurélia. Voilà. Voilà. Armel, essaie de pencher encore un peu le micro.
Et le casse.
Voilà. Oh, ok,
le
là c'est
le
parfait.
Le casse à Georges Attis.
Hmm? À qui?
Georges
Attis. Il est pas sérieux, lui. Aurélien, ça va?
Oui, ça va.
Et ce matin, comment on se sent?
Bon, je vais bien, je suis heureuse.
D'accord. Heureuse, en tout cas, d'être célébrée ce matin. Oui. On va dire ça en quelque sorte comme ça. Toi, tu vas à l'école normalement?
Oui, je vais à l'école.
D'accord. Et tu es en quelle classe?
Tu es en seconde.
Tu es en seconde. Eh bien, dis donc.
Seconde A. Tu es pressé pour aller où? Tu peux pas avoir doublé une classe que là-bas aussi. Nous, on a doublé, on a fait l'effort quand même. Tu es trop pressé, ma fille.
Ouais, mais... quel âge?
J'ai 15 ans.
15 ans. Ah, ben c'est bien. En tout cas, c'est une. Il y a aussi, par exemple, certains enfants qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, qui nous écoutent ce matin, qui veulent aussi, pourquoi pas, avoir un jour la chance d'aller à l'école. Qu'est-ce que tu peux leur dire qui peut leur donner un peu d'espoir, par exemple, ce matin?
Bon, ce que je peux leur dire, c'est qu'ils ne se découragent pas parce que ce qu'on doit dire, d'abord, c'est parler. Inviter le gouvernement à construire des écoles pour ses enfants, puisqu'il n'y a pas assez d'écoles dans le pays. Donc, on invite le gouvernement à construire des écoles pour eux.
D'accord.
Là, comme cela, ils pourront bénéficier de l'éducation. Mais bon, je l'ai dit de ne pas se décourager.
C'est ça.
Mais aux parents qui doivent inscrire les enfants, c'est ça, en fait. Même si l'État construit les écoles, qu'on n'a pas un rond pour vous inscrire, je crois que l'État doit penser à ces parents-là. Et puis l'école doit être quand même obligatoire et gratuite aussi pour cet été. Parce que mes enfants, ça
c'est ce qu'on sait.
C'est un budget.
C'est ce qui est normalement dit, bien évidemment, par nos gouvernements.
Le RADP, mais le PDC dira le contraire.
Oh là là. Bon, en tout cas, je remarque quelque chose qui est assez frappante chez les enfants. Il y a aussi non seulement cette éloquence, mais cette dimension un petit peu politique. On se dit, tiens, ces enfants-là, on sent que l'avenir
est là pour
très, très radieux.
Il y a un suivi, il y a un bon suivi, en fait, quand on les écoute.
Et c'est nous qui faisons ça, le PDC.
Tout à fait. Et comment, Lydia Quadio, comment on encadre, bien évidemment, tous ces enfants-là?
Les Quadio encore.
Ils sont encadrés comment? Bon, peut-être qu'on va faire intervenir.
Barthélémy.
Voilà.
Non, ne l'écoutez pas, allez-y.
Voilà. C'est monsieur. Non, restez assise. Attends, lui, c'est un homme, Voilà.
Fulgence Kofi.
Voilà. Monsieur Fulgence Kofi. Kofi, pardon. Comment on encadre tous ces enfants-là?
Ils interviennent sur différents médias dans leur communauté, sur les radios de proximité. Là, par exemple, Colo vient de Korogo, il intervient sur la radio locale à Korogo.
D'accord.
Ils ont deux encadreurs, un encadreur scout pour tout ce qui est sociologie et interaction avec les parents. Et puis, il y a un technicien de la radio qui encadre au niveau technique et déontologique, tout ce qui est journaliste, tout ça.
Ok.
Ils sont formés aux techniques de la radio.
Tous, par exemple. Tous, autant qu'ils sont, ou il y a des spécificités
Non, ils sont 15 par station de radio.
Ok.
Ils sont formés à toutes les techniques de radio.
D'accord.
Donc, ils font la production, ils font la pré-production, la post-production. Ils vont sur le terrain, ils enregistrent leur format. La seule chose qu'on fait, on leur donne le thème.
Ok.
Et puis, ils trouvent l'angle sur lequel ils veulent interagir, selon leur contexte local.
Ok.
Et puis, ils font leur papier, ils vont sur le terrain, ils font leur micro-trottoir, tous les formats qu'ils veulent. Et les encadreurs, le rôle qu'ils font, c'est de regarder est-ce que ça va dans la ligne, est-ce qu'il n'y a pas des mots, par exemple, qui ne passent pas en radio. Et quand tout est bon, on le met à l'antenne, il passe à l'antenne.
D'accord.
Donc l'objectif de cette journée, c'est l'enfant et la radio.
C'est la question que je voulais poser à M. Kofi. En fait, je voulais demander si en dehors des médias, vous n'avez pas d'autres secteurs dans lesquels vous les encadrez, en fait.
Si.
D'autres domaines, je veux dire.
Si. Eux, par exemple, c'est un groupe spécifique qui intervient dans les médias. Mais ils ont deux types d'interventions. Ils ont des interventions en studio sur les antennes et puis ils ont des interventions... on appelle hors les murs, où ils vont dans la communauté pour réaliser des activités avec ceux qui n'ont pas la chance de voir la radio, de savoir ce que c'est que la radio, d'envoyer la radio vers eux. Et ils interviennent sur toutes les thématiques qui touchent les droits de l'homme.
Oui,
toutes les thématiques. Eux, par exemple, leur porte d'entrée, c'est le droit à l'expression, le droit à la participation. Parce que les enfants ont le droit de participer dans les médias. Ils ont leur chose à dire, leur manière de le dire. Et donc, on leur donne cette lucarne-là et ils profitent pour amplifier la voix de leurs pères qui n'ont pas la chance d'être sur les médias.
D'accord, c'est intéressant tout ça. Bon, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu, en tout cas, sur le thème qui a été choisi par l'UNICEF local. Je veux parler de l'UNICEF de la Côte d'Ivoire. Un monde pour les enfants, non, un monde par les enfants, pour les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Monsieur Fulgence?
C'est les enfants aux commandes. Mm-hmm. C'est Go Blue, les enfants prennent les commandes. Les enfants, un monde imaginaire où les enfants sont les dirigeants.
Ok.
Où les enfants sont le président. Un enfant mm-hmm. à la tête du pays, qu'est-ce que ça donnerait? Mm-hmm. Un enfant à la tête d'une institution, à la tête d'une direction, un service, un enfant à la tâche, qu'est-ce que ça donnerait? En fait, la belle vision, c'est que en le faisant, on voit en même temps ce qu'on fait que les enfants ne supportent pas. Parce que si on ne supporte pas quelque chose que l'enfant est en train de faire, imaginez un enfant qui est instituté, qui est en train de battre le maître ou bien en train de battre les élèves. Mm-hmm.
Ça choque. Ou frapper un policier ou faire un détournement de fonds, l'enfant ne fera pas.
Si un enfant, par exemple, est à la place de quelqu'un qui fait un détournement de fonds, que l'enfant fait un détournement, comment la personne va réagir? Mm-hmm. Donc, c'est ça un monde. Et l'enfant ne fera pas ça. Les enfants, ils sont innocents. Ils vont tout faire ce qu'ils savent faire de bien.
C'est ça.
Et voilà, donc un monde par les enfants et pour les enfants.
C'est ça. En tout cas, en ce qui concerne les enfants, forcément, on parle de pureté, de probité naturelle. Et c'est ça, bien évidemment, qui est intéressant. Donc, un monde par les enfants, pour les enfants. Et je rappelle que la Journée mondiale de l'enfance est célébrée au moins depuis 1954, me semble-t-il. C'est bien cela. Voilà. Et que ce 20 novembre, elle sera célébrée, bien évidemment, ici en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a un message, par exemple, un message particulier, Madame Kouadio, que...
Elle est mariée.
Vous souhaitez un message particulier?
Alors, le thème de cette année, c'est l'inclusion pour chaque enfant. Mm-hmm. Donc, l'inclusion, c'est vraiment permettre à tous les enfants, à tous les jeunes, d'avoir une voix. Donc, les jeunes qui sont vulnérables, les jeunes qui sont exilés, les jeunes qui sont marginalisés par la société, de pouvoir avoir accès à tous leurs droits.
D'accord.
Donc, l'éducation, la santé, la protection contre les violences et d'avoir une identité également. Et tous les droits dont ils doivent bénéficier normalement. Mmh. Donc, pour moi, c'est vraiment important de parler de l'inclusion cette année et de permettre à tous ceux... à tous les enfants en fait du monde et surtout de la Côte d'Ivoire de se sentir impliqués, de se sentir inclus dans la société, de savoir qu'ils ont leur place,
ils
sont pas laissés pour compte, ils ont le droit à tout ce dont ils ont besoin pour s'épanouir et manifester leur potentiel.
Lydia Kouadio, merci beaucoup. Ornella.
Aurélia.
Aurélia, pardon, merci. Et notre ami Colo Magloire. Voilà, dans quelques instants, les amis, ce sera donc les infos. Restez bien en place dans le Life Matin, puisqu'on aborde la dernière partie de notre émission. À tout à l'heure.
Normal, pas normal. Et si on en parlait?
Nous allons bien évidemment en parler, c'est extrêmement important. Je dis toujours que si ce qui était en off était reporté à l'antenne, ça allait donner encore un piment assez particulier.
On va en faire un coup de gueule.
C'est toi qui vas envoyer ce piment là. Parce que nous, on n'a pas envie de.
On va en faire un coup de gueule.
Et lui, seul, il tape son tam-tam, il chante, il danse, et puis après, il
coupe la lumière. Tu vas voir.
Les amis, nous avons un invité, s'il vous plaît. Voilà, donc notre invité ce matin, dans le Life Matin, Lianyan Ferdinand, président de la jeunesse du Front Populaire Ivoirien, vice-président du FPI chargé de la mobilisation et de l'animation du parti. Monsieur Yan, bonjour et bienvenue chez nous.
Bonjour Gérard, bonjour des Perpignan.
Voilà.
J'ai pas oublié le placali, ça va revenir.
C'est ça qui est intéressant.
On va faire une fois 2025 pour vous.
Après 18 ans de Konaté Navigué à la tête de la JFPI, dont les comptes ont été scellés par votre arrivée il y a 3 ans maintenant, comment se porte globalement aujourd'hui la jeunesse de votre parti?
Alors, ce que je pourrais vous dire, c'est que la jeunesse du Front Populaire Ivoirien, on peut dire qu'elle va mieux, qu'elle va bien, parce que nous avons pris le temps depuis 2019 de parcourir un tant soit peu le territoire national, de réinstaller nos différentes bases qui avaient disparu à l'occasion de la crise post-électorale de 2010. Mm-hmm. Aujourd'hui, donc, le Fonds populaire ivoirien va bien, okay. Et sa jeunesse va bien. Donc.
Voilà qui est intéressant. En tout cas, c'est une très, très bonne nouvelle. Alors, de plus en plus de voix se lèvent pour réclamer une place de choix des jeunes au sein des partis politiques. Une voix décisionnelle, écoutée et prise en compte. Qu'en est-il chez vous?
Ben, vous avez tout à l'heure dit que je suis vice-président du Front populaire ivoirien, ce qui veut dire que je participe à la prise de décision, membre du secrétariat exécutif, qui est l'instance de décision quand on n'est pas au Congrès, donc la plus haute instance quand on n'est pas au Congrès, qui est la réunion des grands dirigeants. Je participe à cette réunion, donc on peut dire que la jeunesse a une place de choix. Et je ne suis pas seul, parce que en bas du secrétariat exécutif, il y a le secrétariat général dans lequel se trouvent plusieurs jeunes aujourd'hui que nous avons proposés au président, qui ont été acceptés, qui font partie de cette équipe.
Alors, vous, sous quel axe, sinon sous quel mot portez-vous, bien évidemment, votre mot MOT, hein, bien évidemment, votre mandature, par exemple?
Oh oui, quand j'arrivais, quand on était en campagne, c'était rupture, engagement et responsabilité. Rupture parce que nous avons vu entre 90 et 2000 et 2010 une jeunesse ivoirienne, surtout celle de l'opposition, qui était carrément tournée vers les manifestations de rue. Je ne dis pas qu'il faut les proscrire, mais je me dis que la jeunesse peut avoir un autre rôle que celui d'être considéré comme des baroudeurs, comme des gros bras, qui doivent forcément être au premier plan des batailles physiques. Et quand il s'agit de réfléchir, on dit il n'est pas encore l'heure pour vous. Alors j'ai dit qu'il faut rompre avec ces pratiques et être une jeunesse véritablement responsable. Engagement parce que dans 2010, après la crise, beaucoup de jeunes ont vu le Front populaire ivoirien comme une peste.
C'est ça.
Beaucoup sont partis et ou regardent de loin pour ne pas participer aux activités du parti. À ces jeunes-là, j'ai dit qu'il faut redonner vie à notre engagement politique. Il faut reparticiper aux activités du parti parce que c'est nous qui allons faire le FPI de demain. Surtout le reconstruire aujourd'hui et en être les maîtres demain. Alors il faut se réengager. Et puis la responsabilité, ben ça va avec toutes les vertus que vous pourrez connaître. J'en appelle vraiment à la jeunesse d'être ce que toute la société lui reconnaît, c'est-à-dire un pilier véritable sur lequel la société peut compter.
C'est ça.
Et de ne pas être les dernières roues de la charrue.
Voilà. Une tendance se dégage ces derniers temps, une probable alliance FPI-RHDP. On a même appris que les tractations avancent bien.
Oui, il est dit qu'en politique, il n'y a pas d'alliance contre nature. On a observé toutes les alliances sur la scène politique ivoirienne. Pour ceux qui ne sont pas des politiques, les trouvent parfois bizarres. Ben, comment est-ce que vous pouvez vous faire des alliés alors que vous ne regardez pas dans la même direction? Mais à ces gens, je dirais que c'est quand on ne regarde pas dans la même direction qu'on est allié. C'est quand on ne regarde pas dans la même direction qu'on peut se faire allié ou essayer un tant soit peu de regarder dans la même direction, ne serait-ce que pour un but. Alors, concernant l'alliance RHDP-FPI que vous avez entendu, les propos du secrétaire général ont été, j'allais dire, plus que clairs. Il a dit, nous restons optimistes. Nous continuons.
Vous voulez parler de Issiaka Sangaré?
Oui, le secrétaire général du Fonds populaire ivoirien, Issiaka Sangaré, a dit que nous restons optimistes. Et je m'en tiens à ces mots. Je m'en tiens à ces mots, espérant que, au bout de cet optimisme, il y a un dénouement heureux pour les deux parties.
En tout cas, on sait généralement des hommes politiques qu'ils aiment faire de la langue de bois ou bien de la prudence quelque part. Moi, je veux encore revenir dessus. Alors, dès lors, justement, que la fusion sera, je mets ça au futur, ou serait scellée, le FPI ne sera plus un parti d'opposition. En tout cas, comme on l'entend, ce sera un parti de pouvoir. Je ne dis pas un parti du pouvoir. Le FPI sait d'avance, ou sait-il d'avance qu'il ne peut accéder au pouvoir seul, qu'il s'accoquine avec le RHDP?
Mais le RHDP même sait qu'il ne peut pas avoir le pouvoir seul pour les élections de 2025. Oui, je vous le dis et je le dis en me fondant sur la réalité politique ivoirienne.
Allons-y, on vous écoute.
Alors, comme nous sommes des hommes politiques, nous ne voyons pas les choses peut-être comme vous les voyez, de loin. Vous voyez que tout est beau, mais je vous dis que le RHDP seul ne peut pas gagner les élections de 2025.
Okay.
Alors, le RHDP aura forcément besoin d'un allié, ne serait-ce qu'un allié qui ne pèse que 1% pour justement avoir le maximum et gagner les élections de 2025. Aux élections de 2025, comme à toutes les élections qui ont précédé, il faut 50% plus 1.
C'est ça.
Et je m'en tiens aux trois grands. D'abord, que nous, ceux que nous avons appelés les trois grands,
c'est ça,
de commun accord, Alassane Ouattara, Henri Konan-Bédier, Laurent Gbagbo, qui, somme toute, représentent des poids réels que chaque homme politique ivoirien, chaque citoyen ivoirien reconnaît. Deux se sont déjà alliés. Quand vous retournez dans le temps avec la crise de 2010, ou ce qui a précédé la crise de 2010, qui était les élections, référez-vous aux résultats des uns et des autres, et vous comprendrez qu'aucun parti politique, et je le dis bien, le PDCI qui s'est implanté depuis 40 ans, le RHDP qui vient de s'implanter après 10 ans, véritablement, c'est maintenant qu'il est implanté, ne pourra pas gagner les élections seul, il aura forcément besoin d'un allié. Que ce soit le FPI, que ce soit le PPACI, que ce soit le PDCI, l'UPC ou autre parti politique, chacun de nous a besoin d'un allié.
N'est-ce pas là, même si peut-être vous refusez en tout cas d'admettre cela, n'est-ce pas là une alliance contre nature quand même que cette probable alliance entre le FI et le RHDP? Quand on sait, en tout cas, quand on connaît tous les antécédents qu'il y a eu entre ces deux partis en tout cas. Est-ce que le FPI ne se réunit pas là, sur le coup, même si c'est celui de tendance à Fingesson?
Oui, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous voulez que ce soit un réuniment, alors qu'en 1995, le RDR et le FPI étaient déjà alliés. Ce n'étaient pas des partis avec des courants similaires.
C'était
des
courants... Mais c'était l'opposition.
On peut le dire, mais tant que vous ne regardez pas dans la même direction, vous êtes opposé. Dans tous les cas, chaque parti de l'opposition est opposé au parti de l'opposition qui se trouve dans l'opposition avec lui. Ça, c'est déjà une réalité parce que les deux partis, n'ayant pas la même identité séculaire, jouent chacun son rôle pour effectivement arriver au pouvoir d'État. Chacun de nous se combat en interne et on combat ceux qui sont au pouvoir. Donc, notre sort n'est pas scellé, lié. Chacun a son identité, chacun a ses objectifs. Et c'est en fonction des objectifs de chacun que nous travaillons. Voilà, donc on n'est pas forcément obligé de rester avec ceux qui sont dans l'opposition quand nous croyons qu'à un moment donné, nos intérêts sont divergents. De toutes les façons, comme les États ont des intérêts, les partis politiques aussi ont des intérêts. Et ce sont ces intérêts-là que chacun défend. Nous avons notre ligne et c'est cette ligne-là que nous pensons défendre avec les différentes valeurs que nous avons mises à l'intérieur. Et si nous pensons à un moment donné que l'alliance, soit avec le pouvoir ou avec un autre parti de l'opposition, est ce qui pourra nous permettre de réaliser le rêve que nous portons pour les Ivoiriens.
C'est quoi ce rêve-là?
C'est sans gêne. Eh bien, vous avez vu, nous avons créé un parti. Nous sommes là pour la promotion de la valeur humaine. Parce que quand vous regardez un peu aujourd'hui ce qui se passe, c'est vrai qu'on parle d'alliance avec le RHDP. Nous pensons que ça peut avoir lieu, comme ça peut ne pas aussi avoir lieu. Mais le RHDP a quand même cet art qu'il faut corriger. Et je pense que
vous partez corriger les terres du RHDP au sein du RHDP.
Non, nous ne partons pas au sein du RHDP. Ne confondez pas les choses. Life Radio peut être allié à une autre radio pour faire une émission. Mais Life Radio ne devient pas une autre radio. Life Radio reste une autre radio.
Elle garde son identité.
Garde son identité. Une alliance n'est pas un alliage. Écoutez. Vous avez bien entendu le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, quand il s'adressait au président de l'UDPCI, il a dit, avec le FPI, nous n'avons pas la même identité. On n'a pas la même ligne politique. Mais vous, de l'UDPCI et le RHDP, c'est la même chose. Entre vous et nous, il ne peut pas y avoir d'alliance. Soit tu intègres, soit tu restes dehors. Mais ceux qui n'ont pas la même identité que nous, avec ceux-là, on peut faire des alliances circonstancielles juste pour quelque chose. Et puis, quand on a fini ce quelque chose-là, chacun reste comme il était.
Mmh. Voilà. Je rappelle que nous discutons ce matin avec Monsieur Lianyan Ferdinand, président de la jeunesse du Front Populaire Ivoirien, vice-président du FPI chargé de la mobilisation et l'animation du parti. Voilà, dans quelques instants aussi nous allons aborder bien évidemment la dernière partie de notre entretien. Nous allons balayer l'actualité, bien évidemment. Mais je voudrais aussi donner un tout petit peu la parole à Lynn Begré en quelques secondes qui va nous dire, voilà.
Alors, ma question, elle a deux volets. Dans un premier temps, j'aimerais savoir à quel moment vous avez intégré le FPI lui-même.
Le FPI, je l'ai intégré déjà en 2006. J'étais à l'université, je venais de finir ma maîtrise en lettres modernes. Mmh. Il fallait maintenant, après les écoles de la FESI, entrer en politique. J'avais fini avec l'école, il fallait donc affronter la vie active. Mmh. Je suis rentré en politique. Et quand je suis rentré en 2006, j'étais dans la coordination la jeunesse du Front Populaire Ivoirien, celle de Diokwe. Et donc, c'était celle-là que nous animions avec nos différents camarades qui étaient là, notamment Nyonzi Jean-Noël.
Avec qui vous partagez les mêmes idéaux, en fait, à la période. D'accord. Oui.
Et c'est en ce moment-là que j'ai intégré le Front Populaire Ivoirien.
Et comment vous avez vécu aujourd'hui le retrait? Parce que je suppose que vous avez côtoyé tous ceux qui sont rentrés, parce qu'on le sait tous, hein, on va pas le cacher, le FPI d'avant, il y avait également ceux qui sont au PPACI aujourd'hui. Donc, comment vous avez vécu leur retrait?
Vous savez, la séparation, elle est toujours douloureuse, quoi qu'on dise et quoi qu'on pense. C'est vrai qu'on peut être sur la scène politique, on peut se dire, ah ouais, qu'ils partent. Oui, c'est vrai, mais en politique, un seul élément qui vous quitte, c'est une grosse perte. Un seul élément qui vous quitte. Donc, si c'est une perte pour le Front Populaire Ivoirien d'avoir perdu ses camarades qui sont allés créer d'autres partis politiques, c'est notamment une perte pour eux aussi d'avoir quitté le navire du Front Populaire Ivoirien et d'être allé créer un autre parti. Aujourd'hui, vous voyez que la gauche ivoirienne est carrément divisée. C'est pourquoi je dis que le RHDP seul ne peut pas gagner une élection.
Mmh. Et donc, les raisons pour lesquelles vous êtes resté, bon, on va revenir, je suppose qu'il y a une pause là, on va revenir à ça tout à l'heure.
Voilà, donc notre entretien, évidemment, va continuer. Tout juste après la pause, on va revenir sur les propos là tout à l'heure du secrétaire général. Il y a beaucoup de choses à dire.
Normal, pas normal. Et si on en parlait?